René Boislève, Sainte-Marie des Fleurs. Ce fut sur la plage du Lido, à Venise, que je rencontrai pour la troisième fois la jeune fille que le destin, évidemment, s'entêtait à placer sous mes pas. Elle avait fait une vive impression sur moi, quelques semaines auparavant, à Florence, devant la porte de l'église Sainte-Marie des Fleurs, où je l'avais entendu envoyer promener d'une voix nette et décidée les guides innombrables qui importunent les étrangers de leurs bons offices. Elle leur avait jeté un « Allez-vous-en !» si impatienté et si colère que je n'avais pu m'empêcher de sourire en passant près d'elle en ce moment. Elle s'en était aperçue et avait rougi. Je l'avais revue dans un magasin de photographie. Elle feuilletait des Botticelli et soulevait de l'ongle les planches qui lui plaisaient en disant « Oh, j'aime ça, j'aime ça !» Elle n'avait pas paru me reconnaître. Mais depuis lors, je pensais souvent à elle et j'avais l'espoir de la retrouver. À part moi, je l'appelais « ma petite Sainte-Marie des Fleurs ». Il y avait une grandeur qu'elle marchait toute seule sur les longs sables de la plage de Venise. À chaque tour, elle s'arrêtait un instant à parler à sa famille, réunie en groupe, sur des pliants, puis elle reprenait sa promenade. J'étais assis contre la pente de la digue qui longe ce rivage sans fin, et je ne me lassais pas de la voir aller et venir en imprimant sur le sol humide la marque de ses pieds finement chaussés et le bout de son ombrelle. Elle portait une robe écossaise qui ne me plaisait point. Je remarquai qu'elle avait le nez un peu fort et ses yeux d'une teinte grise me parurent trop grands. Je ne me rendais pas compte de ce qui me séduisait en elle. J'étais plutôt porté à ne la pas trouver bien, d'autant plus que, m'ayant croisé à 10 reprises, elle n'avait pas une seule fois jeté les yeux sur moi. Elle parut s'intéresser un moment au soleil couchant et à la mer que le soir comblait de tons harmonieux. Puis subitement, elle se rapprocha de sa famille et dit « Allons-nous-en !» On se leva et partit. Je pensais rester là quelque temps encore, à cause de l'indolence et de la mélancolie que ce lieu est unique à répandre. Mais je me levai aussitôt et marchais sur les traces de ces dames que j'approchais plusieurs fois à l'endroit de l'embarquement. Le spectacle sur ce rivage du Lido était le plus beau qu'on imagine. Le remuement des gondoles noires contre la grande surface de la lagune et le ciel incendié formaient un miroitement d'ombre et d'or que l'on ne voit qu'au pays de soleil et de vive ardent et tragique. Beaucoup de gens demeuraient là, au bord de l'eau, sans pouvoir s'installer, et la chair des bateliers, immobile, étincelait d'un feu sombre. Accoutumés à cette scène journalière, ces hommes attendaient que le disque tombât, comme ils eussent attendu la fin d'une cérémonie. En effet, quand la pourpre du soleil se fut abaissée vers Chioggia, chacun sauta dans les gondoles et se dirigea sur Venise. La jeune fille, ayant laissé se placer tout son monde, s'assit la dernière et au bout en sens inverse de la marche. De sorte que, seul en ma gondole que je faisais tenir un peu en arrière, je pouvais distinguer son visage embobiliné des foulards qu'on lui mit et en même temps apercevoir au loin Venise. La vue de ces campaniles, de ces dômes et de cette large ville couleur bleue de lait que nous gagnions dans le silence du soir me donnait une singulière émotion. Chaque poussée forte et régulière de la rame sur la lagune verdissante et dans la confusion à toute minute plus complète des images avait en moi un retentissement prolongé et j'eus très réellement la sensation d'être emporté vers un avenir nouveau. J'avais je ne sais quel plaisir, au hasard des ombres de l'avancée des gondoles, à découvrir la figure enfouie sous les foulards. Ces heures sont adorables à cause de la suspension même des lignes et des contours de la pensée. De grandes déchirures sanguinolentes balafraient le ciel, et l'eau autour des barques était d'un épais vert olive. Dans la tombée de l'ombre crépusculaire, les marbres de Venise gardaient un reste de lumière, et la ville semblait diaphane comme une chair parsemée de perles. Des sons agréables nous parvinrent. C'était le concert des cloches vénitiennes. Mon batelier me dit que c'était demain dimanche, jour de fête. Et il prononçait ce mot de festa avec une emphase joyeuse qui est une évocation des temps anciens, où la fête était véritablement l'occasion de se réjouir. Puis il me dit que ces deux petites filles seraient très bien habillées demain, et que l'une avait nom Rosa, l'autre Lucinola. Des beaux noms, ajoutait-il, les répétant à plaisir, les faisant vibrer dans l'air tout remué des chants des campaniles. Nos gaudoles se perdirent passé Saint-Georges majeur. La nuit venue, le clignotement des lumières nous éblouit et nous dispersa. Le soir, aux portes des hôtels et des palais du Grand Canal, une barque illuminée s'arrête et l'on entend des violons. Il est assez difficile de distinguer les musiciens derrière le ballottement des lanternes. C'est une douzaine d'hommes entassés et une ou deux femmes. Parfois, dans ce fouillis, on est arrêté par deux grands yeux vifs qui brillent. Mais à l'avant de l'embarcation, sur le petit terre-plein en dos d'âne, un bel homme est campé, droit et haut, le nez d'aigle, la taille enveloppée d'une capa dont le pan se rejette sur l'épaule avec arrogance, le chapeau large en arrière, les mains très sales et force bagues aux doigts. Il écarte sa moustache et dans le beau silence qui s'est fait, entonne une chanson claire et sonore, parole d'amour découpée nette et brûlante comme cette langue en sait dire. Les violons et la voix des femmes soutenues en sourdine ont répondu, et la romance qui s'échauffe monte éveiller les ombres refroidies d'une Venise de gloire, d'orgueil et de vie amoureuse. La lune baigne la lagune, de jeunes anglaises au visage pur rêvent sur les perrons. Des gondoles qui passaient se sont arrêtées. Toute gondole s'arrête. On ne voit qu'une large masse noire qui s'enfle ou s'effile, tantôt compacte et tantôt ébarbée, en longue pointe d'ombre, sans plus de bruit ni de tiraillement que l'éparpillement d'une plaque grasse et noire et à la surface d'un étang. Et puis la barque s'en va doucement sur l'eau bleuâtre, avec ses violons et ses voix. Les gondoles muettes ont filé, tout le monde est parti. Sur la lagune unie, la lune légèrement voilée flatte le silence. Le hasard fit que nous nous trouvâmes ainsi un soir, presque côte à côte, la petite Sainte-Marie-des-Fleurs et moi. La lumière d'une des lanternes des musiciens lui frappait de temps en temps la figure. Je la regardais tant, auquel dut s'en apercevoir, et même en être gêné. Je le regrettais après. Je crus m'être compromis à jamais vis-à-vis d'elle. Elle ne pouvait plus me prendre que pour un homme mal élevé. J'en eus une sorte de désespoir. Le lendemain, tout me parut triste et navré à Venise. Le temps était gris. Je voulus retourner au Lido, je n'y vis personne et je revins. Je passai le reste du jour à regarder stupidement la manœuvre des bâtiments de l'État, sur le quai des Esclavons, où je savais qu'habitait la jeune fille. Quand on eut amené les couleurs au coucher du soleil, Je poursuivis jusqu'aux jardins qui sont au bout de Venise. Et là, je vis encore une fois la nuit envelopper la ville. Je ne sais si ce fut à cause de mon ennui, mais je me sentis soulevé par un mouvement de tendresse si large et si profond qu'il me sembla que le monde entier ne suffirait pas à combler l'envie que j'avais de tenir quelque chose dans mes bras et de l'embrasser. Chose curieuse, c'était Venise que je voulais étreindre comme une femme. Elle était belle, assurément, à cet instant presque incolore qui précède celui où elle cesse d'être éclatante de jour et celui où elle va s'enflammer des lumières du soir. Mais ce sont là de ces attendrissements qui viennent de l'immense fond d'inconscience que nous portons en nous, qu'ils nous rendent donc ridicules. Quelle figure ai-je dû faire là-bas à l'extrémité de ces jardins, en désirant à toute force embrasser Venise? Plusieurs jours se passèrent sans que je puisse apercevoir celle qui me causait ces troubles. Je ne pensais plus qu'à elle. Il était bien inutile de chercher à me le dissimuler. Mon unique but était de la revoir. Je commençais à désespérer. Je pris une gondole et parcourus Venise au hasard, me remettant à la fatalité comme on le fait ordinairement dans des cas analogues. Le ciel était sombre. De temps en temps, il pleuvait. Venise semblait déserte. Au tournant du canal, le cri du gondolier n'éveillait aucun écho. Les vieux palais humides avaient l'air de pleurer par toute la surface de leur délabrement. De grands palis, surmontés de la corne ducale ou d'un ornement en forme de turban, penchés aux portes closes, au-dessus des marches usées que l'eau frappait d'un clapotement lugubre, faisaient penser, dans ce demi-jour de rêve, à de grands personnages passés, revenus s'attrister là, de toute la gloire descendue au-dessus des marches, et qui ne les gravira jamais plus. Mais, dans l'état où je me trouvais, tant de ruines me versaient une secrète volupté. J'eusse aimé que tout achevât de s'écrouler sous mes yeux. « Assez, assez, » dis-je, « nous rentrons. » La gondole tourna et s'engagea dans le canal Saint-Félix, pour regagner le centre de la ville. Vers 4 heures, nous approchions de la petite place située à l'entrée de l'église Saint-Sébastien. Mon cœur fit un bond. Je venais de reconnaître ma petite Sainte-Marie des Fleurs, avec sa famille, entrant dans l'église. « Arrêtez !» criai-je au gondolier. Et je pénétrai dans l'église sans me rendre aucun compte de ce qui allait s'y passer, mais avec une certitude, une confiance parfaite que quelque chose d'important s'y passerait pour moi. Je ne sais en vérité quelle contenance je tins dans cette église. Je la connaissais beaucoup, j'avais fait de longs séjours. C'est là que Véronèse repose au milieu de quelques-uns de ses meilleurs ouvrages. Outre le trouble de ma surprise, mon dépit me gênait. Il était fondé sur une sorte de pudeur assez présomptueuse. En effet, qui m'affirmait que cette jeune fille m'avait seulement vu la regarder avec insistance dans la gondole? Mais si elle m'avait vu, ne m'avait-elle pas oublié, comme on le fait d'un mal autrui quelconque qui vous a heurté dans la rue? Ces dames firent le tour de l'église. Elles s'exténuaient à distinguer, à la seule lumière du baie de cœur, les toiles voilées d'ombre. Leur ardeur et leur volonté étaient admirables. J'affectais de me tenir éloigné d'elles et d'aller justement à l'autre bout. On peut être sot à ce point. Je suis certain que personne ne faisait attention à moi, ne m'avait seulement vu. J'entrai dans le chœur et m'assis en face du martyr de Saint-Marc, singulier moyen de me dissimuler. Je crois au contraire, mais je n'en avais pas conscience alors, que je voulais absolument être approché d'elle, mais par la force des choses, non, spontanément. J'avais déjà eu de ces singulières paresses, et j'allais me placer au fond de ce cœur comme une souricière où forcément je serais pris. En effet, je les vis venir. À 17 ans, j'avais frissonné à la rencontre d'une femme, mais pas depuis comme je le fis alors. Elles approchaient de la grille du cœur. Le jour pauvre qui tombait des vitres donnait toute la lumière possible à leur groupe, que je n'oublierai plus. Deux dames âgées avaient l'air consternées que donnent aux malheureux voyageurs les visites artistiques. Leurs traits s'affaissaient, toutes leurs lignes tombantes semblaient implorer le secours d'un siège. Instinctivement, je me levai. Elles allaient sans aucun doute venir s'asseoir là. Au mouvement que je fis, une autre jeune fille, une amie probablement, dérangea de la main le petit capuchon de caoutchouc qui, par-dessus des foulards, remontait à l'oreille de sa compagne et, se penchant, glissa un mot qui les fit sourire l'une et l'autre. Évidemment, elle se moquait de moi. J'eus la brève sensation qu'aucun art ne me guérirait plus, moi, de la blessure qui se creusait, et que les hasards et les choses se mêlaient de venir élargir et toucher à vif. Cependant, qu'elle se fût moquée de moi n'était rien, au prix de l'étrange secousse que me causait la seule vue de son visage. « De qui ces tableaux, mon enfant ?» fit une des dames âgées. « Mais maman, c'est de Véronèse, voyons » lança-t-elle d'un petit air indigné. Et prenant son ami par le bras, elle l'entraînait d'une muraille à l'autre, du Saint-Marc au Saint-Sébastien, du Saint-Sébastien à la glorification de la Vierge, semblant par son air affairé vouloir éviter les questions naïves de cette bonne maman qui, une fois assise, trouvait tout très bien. Ces demoiselles avaient des mouvements si précipités qu'elles me frôlèrent un instant. L'ami porta la main à sa bouche pour se tenir de rire, mais elle se retourna vite, fit « Oh pardon, monsieur !» et rougit jusqu'aux oreilles. À tort ou à raison, ces faits médiocres me relevèrent instantanément. Toute ma désespérance tombait, une ardeur nouvelle me souleva. D'un coup, j'étais résolu à tout oser, à jouer la partie pour le tout. Si je dois être séparé à jamais de cette jeune fille, me dis-je, que ce soit par une faute de ma part ou du moins par l'épreuve réelle que je ne peux lui plaire. Et je me jurai qu'avant 10 minutes, j'aurais pénétré dans ce petit groupe. Ce petit groupe m'apparut comme un aréopage. J'en sortirai tout à l'heure radieux ou condamné. Ceci se passait dans le maigre jour d'une église muette et quasi déserte, où un étranger n'eut reconnu que des pierres et de l'ombre. Car aux murailles aussi, la sublimité des toiles se taisait. On eût pu penser qu'il n'y avait rien ici. L'orgue de Saint-Sébastien et Claude Volet, que le Véronèse a peint sur leur double face. Quand les volets sont rabattus, ce qui était le cas, on y voit la purification de la Vierge. Ayant quitté le chœur, je vins me camper, les bras croisés, en face de cet orgue caressé des dernières lueurs du jour. Bien qu'extrêmement agité, je ne m'inquiétais plus. Comme il arrive après les décisions prises, je n'avais même pas le souci de chercher le moyen par quoi j'allais pénétrer dans le petit groupe. Il me suffisait de me dire « je veux y pénétrer ». Les dames ne manquèrent pas de venir s'écarquiller les yeux devant les volets. J'aurais pu m'écarter doucement pour leur céder la meilleure place, exécuter quelques courbettes et salutations. Et notre qualité de compatriote m'autorisait à dire « Mesdames, il fait bien sombre. » Ainsi, j'eusse gagné peut-être les dames âgées. Mais je demeurais immobile jusqu'au manque de politesse, absorbé par le combat de la nuit contre l'éclat de ses couleurs qui sont comme un soleil terrestre. Je fus frôlé plusieurs fois dans l'empressement de ces dames à distinguer des peintures que sans doute elles ne reverraient plus. La jeune fille elle-même me toucha. Elle venait de découvrir dans le guide que les volets s'ouvraient et montraient une piscine probatique. Aussitôt, elle avisa de loin la vieille femme qui tenait la porte de l'église et lui demanda si on pouvait ouvrir les volets. La vieille, qui n'entendait pas le français, demeurait insensible. Alors je sentis la douceur inouïe de traduire les paroles et le désir de la jeune fille. Je me refuse à dire la sorte de plaisir que j'y éprouvais au sortir de mes secousses et de ma contraction dernière. Je ne sais si ma voix refléta mon bonheur. Je crois à la vertu communicative des sons, beaucoup plus qu'à celle du sens propre des mots. Maintenant, par cette simple phrase italienne, qui signifiait à une vieille femme de vouloir ouvrir des volets, il me semble que je dévoilais alors toute la secrète puissance d'amour que je sentais sourdre au fond de moi et qui m'étouffait. Ce n'était plus du tout la sorte d'émotion qui m'eût fait trembler la voix quelques minutes auparavant si j'eusse parlé, par exemple, dans le cœur. C'était un prodigieux bien-être, une aise tiède et bienheureuse, le goût délicat de ses paroles dans ma bouche. Mais ce fut une joie si minutieuse et si intimement tendre qu'il est bien possible que rien n'en ait transpercé. Et, retraduisant ensuite la réponse de la vieille, je m'émerveillais de parler en face à ce visage aux yeux gris enveloppé de foulard qui, par la suspension légère de ses sourcils, manifestait plus de surprise de la façon que lui venait la réponse que d'intérêt à la réponse elle-même. Cette femme dit « Mademoiselle, que le sacristain seul a les clés et qui n'est pas là pour le moment. » On eut le temps de recevoir la résonance sourde de mes paroles dans l'édifice avant que ne se détendît l'arc de ses sourcils. Enfin, elle fit « Ah, mais n'est-ce pas, monsieur, c'est bien dommage !» Nous causâmes le plus tranquillement du monde. Je lui dis ce qu'était la piscine probatique. Toutes ces dames poussaient de petits « ah » à chaque terme de beauté que j'employais en parlant de l'admirable maître. Cependant, j'étais certain qu'écoutant un nouveau venu discourir, elle savait déjà la couleur de mes yeux et de ma cravate et si j'avais soin de mes dents, mais nullement à ce que je leur disais. À un moment, je leur fis observer que nous étions sur la dalle qui couvre le corps du grand homme. Elles se retirèrent toutes pieusement, il y eut quelques secondes de silence. Elles étaient très sincères et voulaient être émues des choses anciennes, bien que les femmes ne soient guère touchées que par le présent. Et rien n'égalait l'aisance de nos propos quand nous sortîmes de Saint-Sébastien. Ces dames émirent le vœu de retrouver sur leur chemin un cicerone si éclairé, me demandèrent si j'étais ici pour quelque temps encore ou si je ne faisais que commencer mon séjour. « Il est étonnant, ajouta gracieusement la jeune fille, que nous ne vous ayons point aperçu jusqu'ici. Pouvait-on être plus aimable et plus généreux ? J'appris qu'elle avait nom Marie. Elle était la fille d'un des principaux banquiers de Paris, nommé M. Vitellier. On la faisait voyager pour compléter son éducation artistique, car elle peignait à l'aquarelle. mais elle avait très réellement du goût. Elle s'efforçait de penser, de juger par elle-même. Comme elle y avait beaucoup de difficultés, ayant été élevée comme les autres jeunes filles, il se livrait en elle de perpétuels combats qui étaient de l'effet le plus charmant. Tout ce qu'elle abordait lui apparaissait au premier coup d'œil, sous la couleur dont on lui avait appris à revêtir les choses, mais avec une sorte de réserve hésitante. Puis elle faisait la grimace. « Non, ce n'est pas ça. » Enfin, elle se cherchait, et si on la devinait, et si on allait au-devant de sa pensée encore peureuse, elle était dans la joie, elle vous aurait embrassé. Elle avait la sensibilité d'une feuille au vent. Elle allait, venait, était ballottée perpétuellement, sous le coup de mille influences inapparentes qui eussent laissé toute calme hormis elle. Mais cette mobilité n'interrompait pas la continuité de sa grâce. Elle ressemblait à ces fleurs fragiles, dont l'air agite les tendres pétales, jusqu'à menacer d'en briser l'harmonie, toujours renaissante sous les poussées les plus diverses. Je sautais de l'ivresse à des désespoirs accablants. J'arrivais de promenade où la vie, côte à côte avec elle, m'apparaissait légère comme la lumière, et mes soirées étaient noires et lourdes, mes nuits coupées de brusques réveils, avec cette angoisse toujours, « c'est fini, oh c'est fini, je ne la verrai plus !» Ce cauchemar en venait à empiéter sur le jour. Je l'éprouvais même tout à coup en face d'elle, sur les quais ou dans la gondole, et j'avais des mouvements nerveux qu'elle remarquait parfois. « Qu'avez-vous ? » me dit-elle un jour. « Moi, ben rien, » lui répondis-je. Il m'avait semblé que je n'étais plus là, que je rêvais seulement à ces lagunes, à cette lumière, à cette présence. Je serrais le bord de la gondole pour me faire mal avec la réalité, m'affirmer le véritable moment, l'heure bienheureuse qui s'écoulait. Elle me dit... Et elle me dit vraiment sérieusement, « Oh, mais vous êtes fort !» Non, l'apparence était pas trop stupide. J'avais eu l'air de faire la parade avec mes muscles. Rien ne pouvait m'être plus désagréable. Je me hâtais de rire et je lui dis, « Oh non, 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 ne croyez pas. Mais il me passe parfois des idées mauvaises que j'écrase comme cela. » « Oui, oui, » fit-elle, « cela m'arrive aussi. » Mais elle n'avait pas été choquée de la première interprétation. J'aurais pu avoir cette vulgarité sans lui déplaire. En traversant la piazzetta, elle s'approcha doucement de moi et me dit, « On peut vous parler à vous comme pas à tout le monde, n'est-ce pas ?» Et à cause du mouvement que je faisais, « Bon, vous allez trouver banal... » qu'on vous mette à part à présent, parce que ça se fait en faveur du premier venu à qui on parle, me direz-vous. Eh bien, que votre modestie, monsieur, s'arrange donc du traitement de premier venu. Moi, je continue seulement à vous mettre à part, comme n'importe qui. Dites-moi, est-ce que la perspective de venir à la maison, à Paris, vous effraiera ? Oh non, la perspective ne m'effraiera pas. Non, vous riez, vous n'êtes pas sérieux. On ne sait jamais quand on vous parle si vous vous moquez du monde ou bien non. Je vous demande ça parce que maman va vous inviter. Vous vous croirez tenu d'accepter si ça vous embête après. Vous ne reviendriez pas naturellement et vous serez malheureux en vous croyant impoli. Je vous connais peut-être. Mais pourquoi vous imaginez ? Pourquoi ? Pourquoi ? Mais laissez-moi donc vous dire. Parce que s'il est possible qu'ici vous vous amusiez un peu de notre compagnie, encore que vous soyez parfois fort grincheux, à Paris, vous horripileront. Papa est gros, absorbé, dort le soir. Maman est bonne. Par-ci, par-là, nous avons des amis ou quelque chose d'approchant. des gens d'argent, des femmes médiocres, des sportsmen. Enfin, moi que voici, pas plus attrayante que ça, mais ayant au moins le rare avantage d'entretenir parmi tout cela un accord tiède, abrité du grabuge, par ma qualité de... Enfin, comment dirais-je... Comment nommer une jeune fille qui ne peut semer les convoitises intéressées et qui est garantie de l'éclat des autres par un avenir déterminé, étant fiancée à long terme. Fiancée, oui, à... Elle évita de me regarder en me disant cela. Mais j'étais certain, cependant, qu'elle m'avait vu. J'ignore totalement ma contenance à ce moment. Ce qu'il y a de certain, c'est que, tout debout, continuant à marcher, peut-être à discourir, je perdis à peu près complètement connaissance. J'avançais sans prendre garde vers la cohue bruyante des gondoliers. « Gondola, signore, gondola, gondola !» Ils brandissaient leurs rames et disposaient les coussins pour nous recevoir. Elle me tira brusquement par la manche. « Mais où allez-vous donc ?» Je ne regardais pas à mes pieds. J'atteignais le bord du quai, j'allais faire le pas suivant dans le vide. Je me mis à rire tout à coup. Elle se fâcha. « Oh, si c'est une plaisanterie que vous avez voulu faire, je ne la trouve pas drôle, » dit-elle en faisant sa moue. « Ne vous ai-je pas dit déjà que j'étais peureuse ?» La sottise de cette apparente plaisanterie et en avoir ri m'achevait. Ma figure devait avoir l'air d'une loque. Elle s'en aperçut. Elle crut sans doute que j'étais peiné de sa remontrance et de lui avoir fait peur. Elle se fit toute câline, elle me demanda pardon. « C'est étonnant, » dit-elle. « Comme vous changez de visage. À deux instants successifs, on ne vous reconnaît plus. » Je m'efforçais de ne pas la regarder. Ses yeux et sa voix, quand ils se faisaient tendre, me fondaient littéralement comme le morceau de sucre sous le thé brûlant. Elle poursuivit. « Oh, c'est, dit-elle, que je vous parle de choses si peu intéressantes. Oh, je vous ai déjà vu, déjà, allez, quand un mot comprenance vous choque ou ne vous atteint plus, c'est fini d'un coup, vous êtes parti. Mais je veux achever tout de même ma petite présentation en règle, parce que si vous venez à la maison, il faut que vous nous connaissiez. Je suis fiancé à un monsieur tout à fait riche. Savez-vous ce que c'est? Vous vous moquez de ça, vous, moi non. Je ne me fais pas l'idée nette de ce qu'est cela, être tout à fait riche. Mais c'est une idée vague à laquelle je me fais. Il faut être tout à fait riche. Papa est riche seulement. J'ai toujours entendu dire que ce n'est pas assez. J'ai vu ce monsieur deux ou trois fois. C'est un grand blond, il s'appelle Harrigan. Il est bien. Pour le moment, il est à Chicago. Ça fait rire, dites, quand on est à Venise, d'entendre dire que quelqu'un est à Chicago. Mais non, ce n'est pas ridicule. Mais c'est en allant au Chicago de jadis que ce beau peuple actif a fait Venise. Ah, n'est-ce pas, vous comprenez ça? Eh bien, ça me fait grand, grand plaisir. Mais je ne suis pas si bête, elle sourit. Oui, oui, dit-il. Mais vous auriez blagué mon Chicago, vous qui ne paraissez entiché que de beaux débris. Eh bien, ça ne m'aurait pas du tout étonné. Et à vous dire vrai, ça m'aurait ennuyé. Mais ennuyé, vous ne vous en faites pas l'idée. Je veux me la faire assez pour en être flatté. Comme vous voudrez, fit-elle rapidement. Mais voyez-vous, je vous en prie, ne vous moquez pas de moi. Oh, trêve de protestation, je sais ce dont vous êtes capable. Je commence à vous posséder sur le bout du doigt. Merci. Et vous êtes encore stupéfaite quand vous me découvrez une lueur d'intelligence? Ah, oh, vous voyez bien, vous voilà encore à railler. Oh, c'est agaçant, agaçant. Je suis dans une grande colère après vous. Mon Dieu, mais pourquoi est-ce que je me tue à vous expliquer des choses que je sais bien que vous avez déjà saisies? Vous excellez à combler les réticences. Vous devinez admirablement, mais on dirait que pour le moment, vous seriez enchanté de me piquer, de me faire grincer des dents. Mettons donc des points sur les i. Eh bien, c'est tout ce menu et banal train-train de la vie moderne dont vous semblez faire abstraction, vous, garçon indépendant, vous accoutumé de vivre dans la compagnie de ce que le passé, l'histoire, la poésie vous offrent de plus beau. C'est toute cette pauvreté de gens et de manières dont je redoute l'effet sur vous. J'ai peur que vous riez de nous tous et de moi. Oh, nous y prêtons beaucoup par tout ce que nous avons de vulgaire. Ce ne serait pas, de votre part, la marque d'une grande faiblesse d'esprit. Mais je vous assure que si. Bien vrai? Oh, dites-moi ça, dans l'ombre de votre manière railleuse. Mais bien vrai, je vous jure que je ne ris pas du tout. Je ne riais pas. J'essayais d'étouffer ma rage et ma tendresse mêlée dans un tumulte confus. Le coup violent de la nouvelle de ses fiançailles, après m'avoir assommé, me laissait une colère contre cette petite qui m'annonçait cela avec tant de naturel. Je m'étais fait, depuis 8 jours, en pensée à une telle familiarité avec elle, que l'idée brutale de la prendre et de secouer ses membres fragiles, comme à une maîtresse surprise en trahison, me vint avec le retour de mes sens. Je lui en voulais de ne pas découvrir que j'étais ivre d'elle et qu'il valait mieux ne pas m'inviter à l'aller voir que de me dire cela. J'étais furieux contre moi-même et contre tout le reste. Nous étions arrivés, tout en causant, à la corne extrême de Venise, où sont les jardins. Elle me dit « Oh, décidément, vous êtes dans vos vilains moments. Ce n'est pas la peine que je parle. Je vois que vous ne m'écoutez pas. » Cette phrase anodine, mais qui marquait la sorte d'intimité boudeuse et grondeuse où nous en arrivions aisément et que j'adorais, me remit à vif. Elle me donna un petit coup si voluptueux et si amer que je sentis les larmes me suffoquer. Je me contins par un brusque effort, mais je dus rester quelques instants sans répondre. Mon ravissement vis-à-vis d'elle était dans la nuance des paroles. Je vis si clair et si proche l'instant où cette douce intimité minutieuse allait être rompue que j'eus la tentation de briser tout à coup pour en demeurer sur le pur parfum. Paris et la pensée de l'homme de Chicago, pensais-je, vont me corrompre et m'empoisonner tout cela. Tournons sur nos talons, emportons le baume encore si délicat. Puis je réfléchis qu'il y avait quelques minutes à peine qu'elle m'avait annoncé ses fiançailles. Il me semblait déjà que j'en avais souffert depuis plusieurs jours. La quitter si soudainement ne serait-ce donner à cet événement une importance que je ne voulais pas laisser paraître. Enfin, ces dames nous avaient rejoints, et mon adieu non préparé eût été d'une sécheresse indécente. Je n'osais pas l'exécuter. Mais je résolus de me comporter immédiatement vis-à-vis de moi-même, comme si ma séparation eût eu lieu en effet, de me tuer le sentiment, de n'être plus là qu'un étranger retenu par la politesse. Et si j'étais tenté de faiblir, une idée me devait servir de cordial puissant. J'emporte au fond de moi, me devais-je dire, la petite amphore close sur le parfum sans mélange. Aussitôt seul, j'en soulèverai avec précaution le couvercle et en aspirerai les arômes légers. Je me mis à parler à tort et à travers dans les jardins. Je m'intéressais subitement à des quantités de choses qui depuis une quinzaine m'étaient devenues étrangères. Je retrouvais l'homme que j'étais avant la journée du Lido. Assis du côté des lagunes, je retraçais à ces dames les beaux fastes de la République de Venise. Elles s'émerveillèrent et me crurent un bien savant homme. J'annonçais très sincèrement le projet de me livrer à des travaux considérables. « Mais vous êtes bien élégant, me dit la jeune fille, pour demeurer dans les bibliothèques. » J'affirmais que j'avais des manches en lustrine et des lunettes à longues branches minces et recourbées qui tiennent solidement aux oreilles. Le reste de la promenade s'acheva en humeur facile. Nous vîmes encore un beau soleil mourir en faisant palpiter les marbres. Je pris congé sur ce quai des Esclavons tant de fois parcouru. Je fixai mon départ au lendemain. Je retins le toucher de mes doigts en pressant une dernière fois des mains chaudement tendues. J'aveuglais même mon regard en sorte qu'aucun œil ne me troubla. J'étais persuadé que j'avais le cœur le plus sec et que tout plaisir était désormais vulgaire au prix de celui qui m'était réservé sans mélange et que j'emportais comme un souvenir merveilleux de ce que Venise a de plus subtile beauté. Respirer ma petite amphore parfumée,